Mais oui, c'est surprenant de retrouver des contacts entre les individus à l'état fossile qui n'existent plus depuis très longtemps.
Une migration de trilobites, ça n'a l'air de rien, mais c'est l'empreinte du premier comportement collectif observé chez un animal, un lien social qui existait déjà il y a près d'un demi-milliard d'années.
La 9e académicienne française officiellement intronisée cet après-midi sous la coupole à Paris, 9e femme seulement depuis l'existence de l'Académie française au XVIIe siècle. Il s'agit de la philosophe Barbara Cassin qui a rendu dans son discours hommage aux langues, à toutes les langues, pourvu qu'elles soient vivantes. Il est 18h10 à Paris.
Radio G.
Bonsoir et bienvenue à l'écoute de votre quotidienne d'actualité culturelle et locale, c'est l'oreille curieuse sur Radio G. Les habitués que vous êtes forcément savent que un jeudi sur deux, on retrouve d'étoiles plein les yeux, la chronique où Margot nous plonge au cœur du cinéma, le cinéma du monde entier et de toutes les époques. Rendez-vous en deuxième partie d'émission pour découvrir le film qu'elle a choisi ce soir. Mais avant, nous allons au cœur de l'entreprise, celle avec des cadres, des managers, des collaborateurs, des dossiers, des délais, du stress forcément. Enfin, vous imaginez un petit peu le tableau. Ce soir, nous parlons de Building, une pièce de théâtre qui sera jouée ce samedi par la compagnie De l'Envol. C'est au Carnet à Angers. Et on va voir ça ensemble. Ici Annelie derrière le micro, j'ai préparé cette émission et ce soir je suis vraiment convaincue qu'elle sera passionnante du début à la fin. Donc je vous invite à rester jusqu'à 18h50. A tout de suite. Ce soir, nous parlons donc de théâtre et je suis avec la compagnie De l'Envol, qui est représentée par Lisa, bonsoir.
Bonsoir Annie.
Et avec Jean-Marc, bonsoir.
Bonsoir.
Merci à tous les deux d'être là, vous êtes plus nombreux, mais vous êtes les deux qui avaient accepté de venir à l'antenne.
Oui, les autres n'ont pas voulu venir.
Ils avaient beaucoup d'autres choses à faire. Donc Building, vous jouez samedi à 20h.
Oui, notre première.
C'est la grande première. C'est au Carnet, à Angers. On conseille déjà de réserver.
Oui.
Ouais, parce qu'il reste pas tant de place que ça.
En effet, oui.
Et c'est un texte écrit par Léonore Confino. Mais d'abord, avant qu'on parle du texte, de la mise en scène, enfin de tout ce que vous avez préparé, j'aimerais un petit peu qu'on dise deux, trois mots sur la compagnie De l'Envol. Ça fait un petit peu plus d'un an que vous existez ?
On existe officiellement depuis juillet 2018. Nous sommes six dans cette aventure, trois femmes, trois hommes. La parité,
c'est
formidable.
C'est si courant.
On a fait le calcul avec Jean-Marc entre 33 et 65 ans. Mmh. Voilà, on est tous issus plus ou moins d'ateliers de théâtre amateur d'Angers, de Paris. Mmh. D'Angers, c'était le théâtre du champ de bataille et la maison de quartier Ney. Ouais. Voilà.
Et autour de quelle idée ou quelle approche ou quelle pièce de théâtre, enfin de quelle idée du théâtre vous vous êtes retrouvés ? Ou de quel amour de pièce ? Comment vous vous êtes retrouvés ?
En fait, on ne s'est pas retrouvés autour d'une pièce en premier, on s'est retrouvés autour d'une envie commune. C'était d'en faire plus, de donner plus que pour un simple atelier amateur, où on est en général très nombreux, on doit être à peu près une quinzaine à chaque fois pour 2 heures par semaine. Et on voulait s'investir davantage. Autour d'un projet commun dont on se saisisse vraiment du début à la fin. On savait que ce serait un petit peu lourd comme projet, compliqué. On s'en est rendu compte au fur et à mesure que ça demandait vraiment beaucoup de travail, d'investissement. Mais c'était le but de la manœuvre aussi.
D'aller un cran plus loin.
C'est ça, ouais. De choisir déjà le texte, de choisir un metteur en scène, et puis de tout créer de nos propres mains. La com, les costumes, de trouver une salle, de démarcher des salles pour pouvoir jouer.
Oui, il n'y a pas que la partie être comédien, comédienne voilà. Sur scène, il y a tout, tout.
C'est ça, pour. De ne pas venir en fait et s'installer les pieds sous la table, ce qui est très confortable hein, dans les ateliers théâtre, mais voilà, on avait envie de s'investir beaucoup plus pour être fiers de créer un projet.
Ouais, à vous.
Ouais. Voilà, oui.
Et Building, c'est la première pièce que vous montez sur scène alors ?
Ah oui. On a d'abord créé la compagnie, oui. La création de l'association qui va avec, et puis on s'est mis à la lecture de différents textes, et on s'est vite arrêté, à vrai dire, sur cette pièce qui nous a tous plu.
Mmh. Voilà. Pendant l'été 2018, en fait, on a fait un gros travail de lecture. On est tous allés bouquiner, emprunter des textes à droite à gauche, à la bibliothèque du Quai, à la bibliothèque Toussaint, on s'est partagé des idées, on a croisé nos lectures. Et on a voté. Mmh. Et en fait, Building a émergé très, très rapidement.
Mmh. Alors, c'est un texte de Léonore Confino, qui est une auteure vivante, contemporaine, qui est aussi actrice. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu de quoi ça parle ? On est plongé dans le monde de l'entreprise, il y a plein de services, des réunions. Qu'est-ce qu'on va suivre ? Est-ce qu'il y a des personnages ? Qu'est-ce qu'on retrouve dans Building ? Jean-Marc.
Il y a pas mal de personnages, oui, en fait on joue chacun plusieurs personnages dans la pièce. C'est une critique du monde de l'entreprise avec tous les travers qu'il peut y avoir dans une grande entreprise, tels que le stress, tels que le harcèlement ou les différentes formes de harcèlement.
Ou la pression.
La pression, le burn-out.
Chose très sympathique.
Oui.
Ça paraît très sérieux comme ça, mais en fait, c'est des choses auxquelles n'importe qui est confronté au quotidien. La pièce Building, c'est une succession de scénettes, en fait, qui se déroule dans les différents étages de l'entreprise. Il y a 32 personnages, en fait. Donc, on interprète à 6, 32 personnages, ce qui n'est pas rien. Mmh. Oui, effectivement, il y a des comptables, des hôtes d'accueil, des agents d'entretien, des responsables de ressources humaines, des chargés de com, des télémarketeurs. Enfin, voilà, toute
tout une petite...
Voilà, une micro-société qui est là. Et... ça se passe dans une société, une entreprise de conseil, mais... Malgré tout, où qu'on soit dans sa vie personnelle, on peut se retrouver là-dedans. C'est toutes les petites frustrations au quotidien qui existent dans le monde du travail, les ambitions avortées, les petites mesquineries aussi, les guerres de pouvoir, la perte de sens du travail aussi, l'ennui au travail, le manque de communication entre les êtres. Enfin, c'est des thèmes qui... Et c'est ça qui nous a plu, qui peuvent parler à n'importe qui où il se trouve dans sa vie, en fait. Il y a un message universel dans cette pièce qui nous a tout de suite séduit.
Quelle que soit la taille de l'entreprise où on travaille, ou même si on ne travaille pas, on a forcément connu ce genre de rapport entre les personnes, quoi.
Ouais.
Certainement.
Bon, alors c'est un peu dingue hein, quand même ce qui se passe dans cette entreprise-là. Donc c'est vraiment poussé à l'extrême. Il y a un ressort théâtral forcément autour de ça, mais qui s'étire jusqu'à la folie. Enfin, il y a une explosion, il y a les nerfs qui lâchent à la fin. Donc c'est poussé au paroxysme, mais il n'empêche que c'est des sujets tellement concrets. Qui nous ont touchés, quoi.
Et très quotidien aussi. Mm. Ce que j'ai trouvé intéressant aussi, c'est que l'auteur a écrit ce texte à la suite de sa propre expérience, d'une expérience qu'elle avait fait en entreprise où elle a été hôtesse d'accueil en petit boulot, et ça l'a plongée en pleine immersion d'une entreprise comme ça. J'ai trouvé une brève interview où elle parle un petit peu de pourquoi elle en est arrivée à cette écriture, on va l'entendre. Donc, Léonore...
Confino.
Confino, merci.
Alors, pendant ma vie de comédienne, je ne gagnais pas beaucoup de sous. Peut-être parce que je n'étais pas bonne comédienne, mais je ne gagnais pas beaucoup de sous. Et du coup, j'ai été hôtesse d'accueil, souvent au Palais des Congrès de la Porte Maillot. Et j'étais habillée avec un tailleur immonde. Et à chaque fois, les hôtesses, mes chefs hôtesses venaient me voir, donc Priscilla venait me voir pour me dire de me remettre bien du rouge à lèvres, de me remaquiller, que mon chignon dépassait un peu. Et j'ai passé des journées entières sur ces talons à avoir mal aux pieds et à écouter les gens de l'entreprise en fait bouger, communiquer. Et là, je me suis dit, il faut absolument écrire une pièce, ce serait un building comme ça, on partirait des hôtesses d'accueil qui se changent dans le parking, parce qu'on se changeait dans le parking à l'arrache, et de monter les 13 étages de ce building jusqu'au PDG. Et parallèlement, j'avais un pote à moi qui travaillait chez Total. Et qui me racontait un peu tout ce qu'il vivait toute la journée. Donc, à partir de là, j'ai commencé à me renseigner à fond sur le monde du travail, la souffrance au travail. Les bras m'en sont tombés quand j'ai découvert les nouvelles méthodes de management, les pressions, les open space, les bureaux où il faut bouger de jour en jour, comme ça, jamais on ne s'attache à son bureau. Et j'ai vraiment découvert que maintenant, on ne faisait plus un travail, mais une tâche. Et j'ai voulu raconter ça à travers cette pièce. Et donc, c'est 34 employés qui sont joués normalement par 5 comédiens. Et ils sont complètement interchangeables. Et voilà. Et plus on monte dans les étages, plus l'horreur s'empare d'eux. Et c'était super parce qu'on a tourné beaucoup. Et à chaque fois, on avait des gens qui travaillaient dans le monde du travail et qui se reconnaissaient. Et il y a même un type qui est venu à la première représentation. Et il est revenu quelques mois plus tard et il nous a dit: j'ai vu votre pièce, je suis rentrée au travail et j'ai démissionné. Donc voilà, ça avait un impact hyper direct sur certains employés qui étaient en souffrance et qui enfin se sentaient de dire non, tout simplement. Parce que c'était l'objectif de la pièce, de pousser les gens à dire non quand c'est inacceptable, plutôt que de se jeter par la fenêtre, quoi.
On entendait Léonore Confino, donc, qui a écrit le texte de Building. Jean-Marc, Lisa, vous l'avez commis en scène, vous jouez dedans. Est-ce que vous avez envie de réagir un peu à ce qui a été dit?
On espère ne pas pousser les gens à démissionner forcément après avoir vu cette pièce. Nous, ce qui nous a plu, c'est que c'est une pièce qui a un message fort, mais qui reste, même si elle est sérieuse. Il y a du rire qui est provoqué. Nous, on a ri en la lisant. Voilà, il y a ce côté fou en fait qui nous a plu et on espère le rendre sur scène, quoi.
C'est vrai qu'on a beaucoup parlé de tout ce qui est un peu triste, la souffrance, la pression, mais dans son écriture, j'ai l'impression qu'il y a aussi beaucoup de, enfin, une sorte d'humour, d'acidité. Enfin, on peut aussi passer des moments à rire dans cette pièce.
On rit pas forcément ouvertement, je pense. On rit jaune, on rit noir.
Jean-Marc, vous...
On rit aussi à certains moments, quand même.
Il y a des personnages qui sont grotesques, donc ça provoque le rire, on espère.
En tout cas, c'était pas complètement déprimant à mettre en scène, puisque vous l'avez porté depuis un an, même plus.
Pour l'instant, personne ne s'est suicidé dans le jeu.
Très bien. Et justement, c'est aussi cette mise en scène, vous l'avez portée collectivement avec toute la compagnie?
Complètement, oui. Oui.
Comment ça s'est passé?
Après avoir choisi cette pièce, on a pensé chercher un metteur en scène. C'est pas si facile que ça de trouver un metteur en scène, à vrai dire. Et on a quand même trouvé quelqu'un qui vient nous seconder de temps à autre.
Le fameux regard extérieur.
Le regard extérieur, en effet.
Qui est super important.
Voilà. Qui nous a bien aidés, mais pour beaucoup de scènes, nous avons proposé nous-mêmes des situations.
Le but
qu'il a validé ou changé un petit peu. Ben, voilà, mais le but, c'était aussi de proposer des choses par nous-mêmes.
Le but du jeu dès le départ, c'était, comme pour le reste, s'emparer de la mise en scène de manière vraiment collective, mais on savait qu'on avait besoin malgré tout d'un professionnel qui serait là. On a des moyens limités, hein, on est une troupe amateur et on a trouvé un comédien metteur en scène qui s'appelle Benjamin Tudou de la compagnie Nom d'un Bouc. Et qu'on retrouve ce soir d'ailleurs pour la dernière séance de travail avant la première. Ouais. Donc voilà, il a été d'un précieux secours pour nous tout au long de l'aventure.
Ouais. Et je me suis dit aussi, travailler dans une entreprise, c'est une aventure collective, monter une pièce de théâtre aussi, alors forcément c'est très différent, mais est-ce que c'est si différent que ça? Comment ça s'est joué un petit peu pour vous? Je sais que ma question est un peu floue.
Je pense que ça s'est fait assez naturellement. On était un certain nombre à se connaître avant Building. Moi, j'étais un petit peu... Je venais un peu de l'extérieur, mais je sais pas, là... Il y a une alchimie qui a pris assez vite. Et puis, on s'est emparé chacun d'un rôle, d'un poste, en fonction des talents des uns des autres. Voilà, c'est comme ça que l'aventure a fonctionné.
Jean-Marc, je ne sais pas si vous vouliez réagir ou non. Je me demandais aussi par rapport au décor. Enfin, on parlait de toute la transversalité du travail, de vos choix de mise en scène. Finalement, qu'est-ce qu'on va voir? Ce texte n'a pas l'air évident à mettre en scène avec cette trentaine de personnages incarnés par 5 ou 6 comédiens et comédiennes. Est-ce que vous voulez nous en dire un petit peu plus sur ce qu'on va voir?
Concernant le décor, on a opté pour des choses assez, comment dire, minimalistes. On n'a pas fait un énorme décor. On utilisait différents accessoires, des bureaux, des choses simples qu'on a trouvées par nous-mêmes, en l'occurrence, avec nos petits moyens.
Il y a beaucoup de récup.
Exactement. Pour les costumes, on s'est chargé par nous-mêmes aussi de cela, bien sûr.
Ouais.
Bon, cette pièce-là ne nécessitait pas de costume extravagant. Donc, c'était plus simple pour nous de ce point de vue-là.
Bien vu. Et de travailler sur ce texte-là, donc, qui parle du travail, de tous ces rapports pendant plus d'un an. Est-ce que ça a changé aussi votre regard sur vos activités, sur la vie? Enfin, qu'est-ce que ça fait de vivre un petit peu à côté d'un texte pendant un an et de le travailler et de s'en emparer tout le temps?
Moi, en ce moment, dans mon entreprise, on parle beaucoup de tout ce qui est communication, justement, à améliorer. Donc, il y a une résonance particulière par rapport à la pièce. Voilà, j'espère que dans mon entreprise, on ne finira pas comme les employés de Building.
J'ai un peu de recul quant à moi, puisque je suis maintenant retraité. Donc, mais ça me permet de jeter un regard sur ce que j'ai pu vivre par ailleurs, auparavant.
Ouais. Je redonne toutes les informations donc, pour voir la pièce. C'est samedi à 20h au Carnet à Angers. Le titre, c'est Building, si vous venez vraiment de nous rejoindre à l'instant. La compagnie, c'est la compagnie de l'Envol. C'est 9€ ou 7€. Et il faut mieux réserver.
Il faut nous envoyer un petit mail ou...
Je peux donner le mail d'une part et le numéro de téléphone, deux possibilités. Alors le mail, c'est la compagnie de l'Envol, tout attaché sans difficulté, @gmail.com. Et on peut vous appeler ou vous laisser un SMS au choix, je sais pas. Bref, le numéro, c'est 06 22 07 62 28. 06 22 07 62 28 et tout ça est sur les internets, c'est très facile. Merci à tous les deux et je me demandais aussi, est-ce qu'il y a déjà d'autres projets pour la compagnie de l'Envol, même si vous n'avez pas encore fait la grande première de toutes les premières?
Nous sommes en train de parler pour d'autres dates.
Internationales? Non.
International.
Assez local pour l'instant.
Pour l'instant local, ouais. Oui.
Le but du jeu, c'était de travailler pendant une année, voire plus, sur un texte, et ensuite de jouer plusieurs fois, quitte à ce que la pièce évolue aussi dans le temps. Là, on est en pourparlers pour quelques dates jusqu'à l'été 2020, on peut dire.
Ouais, c'est super. En tout cas, je vous souhaite de porter Building dans d'autres endroits. Merci. Merci beaucoup à tous les deux.
Et vous pouvez continuer à nous suivre sur la page Facebook de la compagnie, la compagnie de l'Envol.
Allez. Dès que le site de Radio G sera à nouveau en ligne, si tout va bien avant ce week-end, mais les internets sont en train de mouliner pour ça. Toutes les infos seront sur la page de l'Oreille Curieuse, évidemment avec le podcast. Merci. Bon, je sais, break a leg, on dit ça en anglais pour les premières, je crois.
Thank you.
Et merci, on va poursuivre l'émission en musique avec Let Me Build. C'est un titre du dernier album de Muzi, qui est un musicien sud-africain. C'est sorti la semaine dernière. Give me a break. Let me build. What are you waiting for? Give me a break.
Get some. They won't get you none. They won't get you none. Big city lights. Very hard to navigate. But we tell him to get moving. Watch out before it's too late. What you here for if you ain't no pain? What you here for, man? You're too selfish.
Okay.
Nothing gets done when you're the only one standing. Each one, teach one, now we all reckon.
Radio G 101.5, vous écoutez l'Oreille Curieuse et tout de suite l'émission se poursuit avec des toiles plein les yeux, la chronique cinéma bimensuelle. Bonjour Margot.
Bonjour Anne-Li et bonjour à toutes et tous. Je reviens à ce micro pour évoquer avec vous un film à partir de quelques extraits. Ce soir, nous embarquons pour l'Argentine au début des années 1980 avec l'un des films les plus émouvants que je connaisse.
Tout de suite, ça donne envie. De quel film parles-tu ?
Il s'agit du film L'Histoire officielle, un titre où histoire s'écrit avec un grand H, ce qui donne le ton. Réalisé entre 1983 et 84 par Luis Puenzo, c'est l'un des tout premiers films sur la dictature argentine, tourné justement au moment où le régime autoritaire vacille. Il a été multi-récompensé dans tous les plus grands festivals internationaux et a reçu l'Oscar du meilleur film étranger en 1986. Depuis, cette œuvre est devenue culte, notamment en Argentine, et est ressortie en salle en version restaurée en 2016, soit 30 ans tout juste après son Oscar.
Tu as parlé de la dictature argentine.
Oui, l'Argentine a subi un coup d'État militaire en mars 1976. À partir de ce moment-là, le pays a été gouverné par une junte militaire qui a pratiqué un terrorisme d'État, enlevé et torturé ses opposants. On compte d'ailleurs plus de 30 000 disparus pendant la dictature. De nombreux Argentins sont contraints à l'exil. Et puis en 1982, c'est l'épisode des Malouines. L'Argentine déclare la guerre au Royaume-Uni pour récupérer la souveraineté sur ces quelques îles. La déroute de l'armée sonne le glas de la junte au pouvoir. Les manifestations pour son renversement se multiplient dans les rues. On écoute maintenant un premier extrait de l'histoire officielle, situé au milieu du film, qui marque un tournant dans l'intrigue. Une manifestation fournie au cri scandé de « Libertad, libertad ».
Liberté, liberté.
À l'image, les manifestants défilent en rang serré. Une grande pancarte indique
« Les familles des disparus pour des raisons politiques ».
D'autres montrent des photos en noir et blanc de jeunes gens. De nombreux tracts jonchent le sol. Les cris se poursuivent.
Qu'ils nous disent où sont les disparus.
Une femme d'une quarantaine d'années, bourgeoise, s'approche de la manif. C'est Alicia.
Qu'ils nous disent où sont les bébés qu'ils ont enlevés.
La caméra se rapproche d'Alicia qui longe les murs des immeubles comme écrasée par ce à quoi elle assiste. Ses plans moyens sur elle contrastent avec les plans larges d'ensemble sur les manifestants déterminés encadrés par la police.
Vous, militaires indignes, qu'avez-vous fait de nos disparus?
Plans de plus en plus serrés sur le visage troublé d'Alicia.
Et qu'en est-il des Malouines, des garçons qui ne sont jamais revenus?
Alicia finit par s'engouffrer dans un immeuble. On la retrouve derrière une vitre, une tasse de café à la main. Par la fenêtre, elle observe la manifestation protégée par sa position en surplomb.
Rendez tous les enfants nés en captivité aux familles légitimes, les grands-mères de la place en mai, de mai.
Peut-on lire sur une nouvelle pancarte. Cet extrait qui donne la chair de poule est très particulier dans le film. Il s'agit des toutes premières images tournées en septembre 1983. À l'insu des autorités militaires, Luis Puenzo filme en équipe réduite une manifestation Plaza de Mayo, ou Place de Mai, qui est un peu la place du ralliement de Buenos Aires. Il raconte ce tournage clandestin.
Nous avions obtenu des accréditations de presse pour donner le change. Nous sommes partis avec deux caméras et leurs pieds. Les gens chantaient « On va venir à bout ». C'était la consigne pour les marches, les concerts de rock, les graffitis. On va venir à bout de la dictature militaire.
Ces plans de la manifestation sont donc des images documentaires tournées sur le vif, alors que les contre-champs avec le personnage d'Alicia ont été filmés et montés a posteriori. Néanmoins, l'histoire officielle est bien un film de fiction, choix assumé par le réalisateur.
Beaucoup d'éléments dans le film sont réels. Les manifestations, les pancartes, les fiches de renseignement. Cependant, on ne voulait pas réaliser un documentaire, mais permettre à un travail de mémoire d'exister à travers la fiction.
Et c'est ce subtil mélange entre réalité et fiction qui donne sa force au film. Écoutons à présent un nouvel extrait, justement la scène d'ouverture du film. Derrière le titre « L'histoire officielle » apparaît la première image du film. Un gros plan sur des haut-parleurs qui se mettent à diffuser les premières mesures de l'hymne national argentin. Plan hautement symbolique, d'autant que les noms des comédiens semblent jaillir par moments de ces haut-parleurs, peut-être pour signifier que le film, à travers ses acteurs, s'apprête à interroger l'histoire récente de son pays et à confronter la version officielle du régime avec le vécu d'une partie de sa population. Puis la caméra s'écarte lentement et l'on découvre les élèves d'un lycée en rang serré et uniforme. Ils sont rassemblés avec leurs professeurs dans la cour, entourés de nombreux drapeaux argentins, et chantent ensemble l'hymne national. Revenant sur cette scène, le réalisateur explique.
C'était une façon de se réapproprier les symboles de la patrie, récupérés par les militaires comme tant d'autres choses. Plusieurs années ont passé avant que l'on puisse vraiment chanter l'hymne national comme quelque chose de festif qui nous était cher.
La caméra s'approche en plan serré des visages des lycéens, puis de leurs professeurs, dont une femme austère sous son pleurapluie. C'est Alicia qui chante avec sérieux. Dans le vaste couloir du lycée, Alicia, majestueuse dans son imperméable clair, quelques dossiers sous le bras, salue des collègues professeurs. En classe, elle indique la date sur la feuille de présence.
14 mars 1983.
Face à elle, ses élèves, un groupe de jeunes gens dissipés. On reconnaît parmi eux quelques visages de la scène d'ouverture. Alicia se lève.
Silence, señores, por favor.
Silence, messieurs, s'il vous plaît.
Silence, messieurs. Cette toute première réplique d'Alicia est révélatrice de sa position au début du film. Elle est enseignante en histoire contemporaine de l'Argentine, sûre de son savoir, et refuse tout échange avec ses élèves, préférant s'en tenir à l'histoire officielle, justement. Comme elle le précise à sa classe dans la suite de la scène,
« Comprendre l'histoire nous aide à comprendre le monde. Aucun peuple ne peut survivre sans mémoire. Et l'histoire est la mémoire des peuples. »
Le film de Luis Puenzo va montrer la remise en question de ce personnage, magnifiquement interprété par l'actrice Norma Alejandro, qui a reçu le prix d'interprétation féminine au Festival de Cannes pour ce rôle en 1985. Et cette remise en question est le fruit de rencontres et d'événements que le scénario va mettre en place. Mais elle est aussi suggérée par la mise en scène, et notamment le montage. En effet, à chaque scène en cours d'histoire, avec Alicia comme professeur qui s'accroche à son savoir, succède une scène dans l'intimité d'Alicia, qui remet en cause de façon détournée ses certitudes. Alors l'extrait que nous allons écouter maintenant suit donc la première scène en classe que nous avions écoutée. Alicia donne le bain à sa fille Gabi, 5 ans, et lui demande de chanter.
En el país de no me acuerdo.
Voici les paroles de la comptine qui font subtilement écho au propos d'Alicia sur l'histoire et la mémoire.
Au pays de je ne me souviens plus, je fais 3 pas et je suis perdue. Un pas comme si, j'ai oublié si je l'ai fait.
Ay, qué miedo que me da.
Cette jolie comptine va scander le film, tantôt gazouillée par Gabi, tantôt murmurée ou susurrée par une voix féminine. Elle marque de façon émouvante, comme des petits cailloux blancs, les étapes sur le chemin d'Alicia vers la prise de conscience de la vérité. Écoutons maintenant un dernier extrait du film, une scène capitale dans le parcours d'Alicia. Alicia entre dans un restaurant chic. Le plan large montre une table où l'attendent des amis. La caméra tourne légèrement autour des convives excités de se retrouver. Les couleurs chaudes du décor sont à l'unisson de ce moment chaleureux. Puis l'image montre le contre-champ, sur une petite estrade, un piano à queue. Une femme de dos en joue avec passion. Puis nous revenons sur Alicia qui interrompt son échange avec ses amis pour s'approcher du piano. Plan serré sur le visage fin de la pianiste, concentré, et à l'arrière-plan celui d'Alicia qui s'est assise.
Hier. Demain.
Les deux visages semblent se faire face, comme pour un dialogue. Les mains caressent le piano avec douceur. Anna et Alicia s'enlacent, si heureuses de se retrouver. Les deux visages se sourient intensément. Les retrouvailles avec son amie Anna, perdue de vue depuis 7 ans, se poursuivent autour d'un verre chez Alicia. Passant du rire aux larmes, Anna raconte pour la première fois à son amie ce qu'elle a enduré toutes ces années. La torture, les interrogatoires, la peur, les privations, puis l'exil contraint. L'émotion submerge Alicia, qui prend conscience de la réalité de la dictature. Comme l'explique le réalisateur Luis Puenzo,
« Beaucoup d'entre nous connaissions des disparus, que ce soit des membres de notre famille, des amis ou de simples connaissances. Mais rares étaient ceux qui s'intéressaient aux droits de l'homme et des disparus. Les gens préféraient ignorer. Nous avons fait le film pour ces gens-là, pas pour ceux qui militaient déjà. »
La conversion d'Alicia, comme celle du peuple argentin, va prendre du temps, d'autant qu'elle touche à ce qu'elle a de plus cher au monde, sa fille Gabi. En véritable historienne, Alicia va entreprendre des recherches, étudier des documents, se rendre sur le terrain pour enquêter sur la naissance de sa fille. Bousculée par la fronde de ses élèves, bouleversée par sa rencontre avec les grands-mères de la place de Mai, soutenue par son amie Anna, Alicia va quitter son pays des merveilles et décider de voir. Et il me semble que sur ce point, l'histoire officielle est toujours d'actualité. En ces temps de fake news et d'autres manipulations de tout genre, continuons d'ouvrir les yeux, restons vigilants.
«
cambia lo superficial, cambia también lo profundo, cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo, cambia el clima con los años.
On se quitte en écoutant Todo Cambia, Tout Change, une chanson bouleversante de Mercedes Sosa, grande artiste argentine, arrêtée par la dictature puis exilée. La chanson a été enregistrée en 1984.
L'Histoire officielle, un film réalisé par Luis Puenzo, est sorti en salle en 1985.
Le film est disponible en version restaurée sur plusieurs plateformes de vidéo à la demande, ainsi qu'en coffret DVD, avec notamment un livret de témoignages qui retrace l'histoire du film et un entretien passionnant avec le réalisateur Luis Puenzo. Éditeur, Pyramide Vidéo.
Y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Cambia el sol en su carrera cuando la noche subsiste. Cambia la planta y se viste de verde la primavera. Cambia el pelaje la fiera, cambia el cabello el anciano. Y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Pero no cambia mi amor, por más lejos que me encuentre, ni el recuerdo ni el dolor de mi pueblo y de mi gente. Lo que cambió ayer tendrá que cambiar mañana, así como cambio yo en esta tierra lejana. Cambia, todo cambia.
Merci Margot, on retrouve la prochaine chronique d'étoiles plein les yeux dans 2 semaines dans l'oreille curieuse comme à l'habitude. C'est la fin de l'émission pour ce soir, j'espère que vous avez passé un bon moment à l'écoute de cette édition ce soir et aussi toute la semaine. Sachez que si vous voulez envoyer un mail de réclamation ou d'encouragement, vous pouvez m'écrire par mail à prog.radioG@gmail.com. prog, P-R-O-G. Je vous assure, ce sera une grande surprise de lire un mail d'auditeur ou d'auditrice et ça me fera très plaisir, même si c'est pour me dire des choses affreuses. On se retrouve lundi à 18h d'ici, tout va bien, même antenne, même fréquence. À 19h tout de suite sur Radio G, dans 10 minutes, vous retrouvez Solidaire Monde et à 20h, Tonics Live. Passez une excellente soirée, un très beau week-end, à lundi.
www.radio-g.fr
With a stamp, it's the night we waking up the dead heads, light a flare up, infallible. Invisible skills are diabolical, my voice the audible. Change the whole play of the game as I enter the grain to maintain like Carolina bread. The South rolling through my veins all the way live, breaking the lamina with my stamina. Now you can bet your best step, outspoken left, overconfidence rep. You meet in the door, make you bond into the posture, rip a shape after shape of the ruckus of the sample. Get up to get down. The voice is vandalism to the victim of the rhythm, make a zombie. Gather with others to form an army, approachable, leaving like the screams of a mouth as it's driven out, it's dying like my strangest confound, but still it make you work it and congratulate. Because of the love, it don't hate. Let it wrap around you, fit it like a jumpsuit from 88 boombox to show the puppet Cool J tapes. Man, I'm bad, but not an influence. They got you trouble bound, destination world round. We run with sound as the doors open up, a finger motion for you. Come here melodically, coming through microphones. You gotta just.
World for a second, all you need is all record. If you feel the thing, cause we gonna get along just fine. Respect it. Had to leave some shiesty ones behind. Felt neglected, getting hectic when they start stealing other people's thoughts. What the fuck did y'all think was gonna happen? The automatic and mad collab at the rec center. Go on with your texts and your glocks and whatever else you said you shot. Better not test this every weight or rest in peace, or at least get your ass beat. Featherweight, better wait until you're in my weight class. Fate comes at last. Put the pen down, son. This ain't debate class. It's in a fast and jump, go for the weapon in the trunk. You're gonna need it when you're fighting against me, punk. You lose like I suck a tongue. Fuck the funk, blackjack is my game. Got the record 20-0 skunk. So come follow me on this worldwide journey. Backpacking from Britain all the way to Germany. Heard of me, Mad Racket, Geister, Crank, Richten, Cativo, Nah, Faraggio, Icaro, Kigai. Your lingual spitting, representing the entire beehive of the planet. And we decided we can't stand it anymore. So pack up your bags and head out the door so we can get together and defeat these money hungry whores.
Pareil à mes potes quand c'est plus l'école qui les choisit. On crée une deuxième famille. Malheureusement que le temps nous abîme, rien ne vaut. L'amitié qui crée l'indépendance de pensée. Si ce n'est les voyages de dissidents quand le soleil commence à manquer. Dans le rétro je ne vois que la pluie. J'entends les gyrophares sans cas conduit. On laisse passer les keufs, on roule la nuit au calme. On va chercher les nôtres, direction Roissy, Charles de Gaulle. Sur le chemin on parle des fautes à plus commettre, tu connais. Dans le cimetière de ma jeunesse, j'ai laissé des amis, des rêves et des promesses. J'ai abandonné des larmes et des cris de joie pour bâtir mon monde avec mon cœur, du bout de mes dix doigts.
dans le cimetière de ma jeunesse. J'ai laissé des amis, des rêves et des promesses. J'ai abandonné des larmes et des cris de joie pour bâtir mon monde avec mon cœur du bout de mes dix doigts.
Cette nuit un cauchemar m'a réveillé, donc j'ai estompé mes émotions. J'essayais de garder la tête froide et mes yeux pleuraient des flocons. Putain de silence qui fait plus mal que tout. Mes amis se livrent et moi je dis rien, malgré ça j'ai confiance, il reste mes garde-fous. Je veux savoir ce qu'il y a au bout de la lune et du ciel noir. Je peux pas croire que derrière la première pluie d'espoir, la vie est une fête, c'est le feu. Même pour mes proches addicts aux cigarettes, ils crament leur argent sur des braises de notre citadelle. Je ne vois plus que des tours, mais j'ai demandé à fixer meilleur horizon, dur de se détacher de nos